Chapitre 66. Moram sortit de l'ombre de la forêt et, chancelant, ébloui par la lumière crépusculaire, s'élança sur la plaine. Le grondement insupportable qui lui emplissait le crâne étouffait la moindre de ses pensées. Il aurait été incapable de dire combien de temps lui avait pris sa traversée de la lèpre végétale de l'Île-de-France. Un jour, un an, un siècle. Il s'était battu comme un beau diable pour s'arracher de ses griffes, pour se sortir de ses pièges. Il s'était dirigé au hasard, aveuglé par son chagrin et ses larmes, ployant sous le poids de son fardeau. C'était sans doute un miracle s'il ne s'était pas fourvoyé dans une nappe de boue mouvante, s'il ne s'était pas griffé aux branches des buissons toxiques, s'il n'avait pas piétiné des plantes vénéneuses, si les chiens sauvages ne l'avaient pas dévoré. Il ne restait de sa chemise que deux ou trois lambeaux maintenus par la lanière de la gourde à ses épaules et à ses bras. Son pantalon déchiré, alourdi par un objet volumineux, lui tombait sur les jambes, mais il n'avait pas la présence d'esprit de le remonter ou de le retirer. À vrai dire, il ne savait pas très bien ce qu'il fabriquait sur cette plaine où les vents déposaient un vent mordant, une haleine hivernale. Il n'était rien d'autre qu'une rumeur persistante, ruinant ses pensées, une coupe de détresse emplie d'une eau glaciale et empoisonnée. Trop désespéré pour se soucier de la fatigue ou des balafres qui zébraient son torse dénudé. Il marcha en direction du sud. Du moins, c'est ce que semblait indiquer la position du soleil. Il dérangea des nuées de corbeaux affairés à nettoyer des carcasses pourrissantes et puantes de vaches sauvages.
« Moram !»
La voix, puissante, le cloua sur place. À nouveau secoué par une crise de sanglots, il resserra inconsciemment ses prises sur les jambes et le bras du corps qu'il portait. Il se retourna et vit, entre ses cils emperlés de larmes, une longue silhouette s'avancer vers lui. Il eut besoin de plusieurs minutes pour reconnaître le visage à moitié ravagé de wolf, dont la terre et la poussière sédimentaient les cheveux et les vêtements.
« Je te croyais mort, hoqueta-t-il.
Le destin ne l'a pas voulu. Cinq ou six vaches se sont écroulées devant moi. Elles m'ont protégé du reste du troupeau.
Je viens tout juste d'enterrer Ismaïl. »
Le scorpiote désigna le corps sans vie jeté en travers sur les épaules du chauffeur.
« Solman. »
Il avait prononcé ce nom sans colère, sans chagrin, juste comme un soupir d'évidence. Le grondement s'estompa dans le crâne de Moram, et ses souvenirs rejaillirent en force comme une source tumultueuse et sale.
« Tu m'avais demandé de veiller sur lui, et c'est moi qui l'ai tué. »
Bredouilla-t-il, effaré par les mots qui fusaient de sa bouche.
Il m'a dit qu'il devait leur apprendre la mort, mais que quelque chose l'empêchait de se tuer lui-même. Le pouvoir de l'intelligence. Du verbe.
Moram secoua la tête pour chasser les images accablantes, implacables.
Vite, il m'a dit. Ou le verbe me transformera en être invincible, immortel, et se servira de moi pour t'étrangler, pour exterminer les derniers hommes. Ils se dirigeaient tous vers moi, ces créatures. La lumière me brûlait les yeux, j'ai paniqué, j'ai tiré. Bon Dieu, oui, j'ai tiré. J'ai atteint Solman en plein cœur. Il est mort dans mes bras. En souriant. Il avait l'air si heureux. J'ai tué ton fils, Wolf. J'ai tué mon ami. La détonation a résonné dans mon crâne. un bruit terrible.
Wolf apaisa le tremblement de Moram d'une pression appuyée sur l'avant-bras.
Que s'est-il passé ensuite?
J'ai entendu des cris, des gémissements,
le cœur des voix.
Atroce, insupportable.
Je les ai vus courir dans tous les sens, comme des rats affolés, se jeter les uns contre les autres, une putain de vraie folie collective. Sauf Khadija.
Elle?
Elle est venue vers moi et m'a souri avant de tomber comme une masse à mes pieds.
Il ne restait plus rien de la bâtisse, comme si elle n'avait jamais existé, comme un feu qui se serait éteint.
J'ai lâché mon revolver, j'ai fourré le livre dans ma poche. J'ai hissé le corps de Solman sur mes épaules. Je suis parti en courant, sans me retourner. L'ange et ses chiens gisaient dans l'herbe, d'autres aussi dans la clairière. Des slangs, à ce qui m'a semblé. Les arbres avaient cessé de briller. J'ai cru que la nuit était tombée. Après, je sais plus, j'ai traversé la forêt. Le bruit continuait de me résonner dans le crâne. Bon Dieu! Comment est-ce que j'en suis arrivé là?
C'était la volonté de Solman, dit Wolf d'une voix douce. Mère Nature m'a épargné la douleur de le tuer moi-même, comme j'ai tué sa mère.
Tu savais ce qui allait se passer?
Pas exactement. Ma vision m'avait montré qu'il ne ressortirait pas vivant de cette forêt. J'ai tranché nos liens pour le laisser seul prendre sa décision.
Je suis pas comme toi, Wolf. Je n'ai jamais appris à vivre avec le chagrin. Je comprendrai si tu veux te venger.
Un sourire pâle flotta sur les lèvres du scorpiote.
Me venger de quoi? Tu n'as pas donné la mort à mon fils, Moram. Tu as donné la vie aux derniers hommes.
La vie ne va pas sans la mort.
Ils passèrent la nuit à veiller Solman, luttant contre le froid piquant par la seule chaleur de la parole, des larmes, de la présence. Le livre de Raïma posé sur la poitrine du donneur et ses mains croisées dissimulaient en partie la cavité au bord déchiqueté creusée par la balle. Malgré sa barbe, il avait l'air d'un enfant plongé dans un sommeil paisible, un sommeil de juste. À l'aube, ils décidèrent de brûler le corps.
« Et le livre ?» ajouta Wolf. « Un cycle s'achève. Les hommes doivent renoncer aux vieilles croyances et s'en remettre entre les mains de Mère Nature. S'ils vénéraient Solman comme un prophète ou un dieu, son sacrifice n'aurait servi à rien. Il vit en chaque homme, comme chaque homme a vécu en lui. »
Il leur fallut plusieurs heures pour retourner à l'orée de la forêt et ramasser des branches mortes. Ils placèrent ensuite Solman sur le bûcher que Wolf enflamma à l'aide des allumettes dont il gardait toujours une provision sur lui. Moram pleura à chaudes larmes. Puis, quand le vent eut dispersé la fumée étrangement translucide qui montait du corps calciné, il eut la vision de Hora l'attendant sur une colline des environs de Tours. Elle incarnait la vie. Elle brillait comme un fil somptueux dans la trame.
« Moi, je remonte vers le nord, » dit Wolf comme s'il avait deviné les pensées du chauffeur. « Mon temps est fini. » C'est idiot, mais j'ai envie de revoir cette vieille Baltique avant de rejoindre Mirgwan et Solman. l'eau sera sans doute redevenue complètement pure d'ici quelque temps. Mais ça, ta jolie sourcière te le confirmera. Longue et belle vie, Moram.
Adieu, Wolf. Le scorpiote l'interrompit d'un geste du bras, et, son fusil et une gourde en bandoulière, s'éloigna d'un pas alerte en direction du nord, emportant avec lui sa peine et ses secrets.
3 jours plus tard, Moram gravissait la pente de la colline et serrait Hora à l'étouffer. Son chagrin s'était dispersé dans sa marche. Il voyait désormais, à travers les yeux de Solman, à travers la vision, toute la beauté du monde. Du monde des hommes.
Vous venez d'écouter « Les derniers hommes » de Pierre Bordage, lu par Jean-Christophe Lebert. Une production Audible Studio.